Deuxième épître de Pierre, et c'est à la page 802 dans les Bibles blanches de l'Église. De Pierre, à la page 802. Et je vais prier avant de lire le passage. Merci notre bon Père Céleste, ce que ta parole est vivante, elle est vraie, elle est fiable, elle est digne de confiance, elle est sans erreur, elle vient de toi. Inspirée de ton esprit. Et Père, elle est vivante, elle est efficace, elle nous a convertis, elle nous a conduits à Jésus, c'est ton esprit qui l'a fait par la parole. Elle nous change de l'intérieur. Père, nous allons te demander ce matin de nous nourrir par cette parole. Tu vois là où nous avons besoin d'être corrigés, instruits, encouragés, fortifiés. Et Père, nous allons te demander de faire ton œuvre ce matin. Père, tu fais ton œuvre par ta parole, par cette parole qui nous conduit à Jésus, cette parole inspirée de ton esprit. Et notre bon Père Céleste, nous sommes dans l'expectative ce matin. Parle-nous. Donne-nous d'entendre ta voix. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc, 2 Pierre, chapitre 1. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu par la justice notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elle ne vous laisse pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. On va arrêter notre lecture là pour ce matin. Alors, comme j'ai dit, on va commencer cette nouvelle série qui va durer quelques semaines, 4 semaines, dans cette deuxième lettre de Pierre. C'est une lettre qui semble avoir été écrite vers la fin de sa vie. Peut-être à partir de Rome, où, selon la tradition, Pierre a été mis à mort, crucifié à l'envers. Et c'est une lettre bien pastorale. Pierre s'approche de la fin de sa vie. Il écrit cette lettre à des frères et sœurs qui vont le survivre. Alors le texte ne nous dit pas à qui il s'adresse exactement. Mais sa première lettre a été adressée à des croyants qui vivaient sur ce qui est actuellement le territoire de la Turquie. Et ces croyants-là vivaient des temps de souffrance et de détresse. Cette deuxième lettre, cependant, met en avant le danger non pas de la persécution de l'extérieur, mais la corruption de l'intérieur. Pierre se fait des soucis pour ses frères et sœurs. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le début du chapitre 2. Comme on va voir dans les semaines qui viennent, Pierre est conscient que des faux frères, suivant non pas la parole de Dieu, mais leur désir corrompu, vont s'introduire tôt ou tard, dans les églises, enseignant des doctrines sournoises. Et leur vie, nous dit l'apôtre Pierre, seront marquées par l'immoralité en tout genre. Et la doctrine dangereuse que Pierre veut signaler en particulier concerne la négation, le déni, le refus, le déni du retour de Jésus-Christ. Un faux enseignement qui se manifeste dans cette corruption morale par des vies marquées par le péché. On voit ça en particulier au début du chapitre 3. Alors Pierre veut que ses frères et sœurs tiennent bon, qu'ils restent fondés sur la parole de Dieu et dans une juste connaissance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui revient, celui qui va renouveler toutes choses. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les deux derniers versets de cet épître. Les versets 17 et 18 à la fin. Bien-aimés, vous voilà avertis. Donc c'est une lettre, il veut nous avertir dans cette lettre. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, ceux qui vivent dans l'immoralité, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Et même presque 2000 ans plus tard, l'apôtre Pierre et le Saint-Esprit qui a inspiré cette lettre, ils veulent nous avertir, nous aussi, pour que nous ne perdions pas notre ferme position, la position qui est la nôtre. Ils veulent que nous soyons attachés à la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui nous donne une juste connaissance de Dieu, une juste connaissance de Jésus, de toute la grâce de Dieu que nous avons en Jésus. Et le grand enjeu de cette juste connaissance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ n'est pas simplement intellectuel. Comme si le plus important c'est de tout savoir, d'avoir une bonne doctrine, une bonne connaissance doctrinale. On va voir tout au long de cette lettre que l'enjeu capital concerne nos vies. Cette connaissance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ change, transforme nos vies. Elle produit une vie qui s'attache de plus en plus à ce qui plaît à Dieu. Et donc ce matin, on va voir dans ce passage trois choses. On va voir que le changement est possible. C'est les versets 1 à 4. Le changement est possible. La transformation est possible. Et ensuite, ce changement, cette transformation, versets 5 à 9, ça se travaille. Ça se travaille. Deuxième point. Et ensuite, troisièmement, ce changement, cette transformation n'est pas facultatif. C'est les versets 10 à 11. Oui, le changement est possible, la transformation est possible. Nous pouvons vraiment grandir en Christ et faire des progrès dans la vie chrétienne, dans une vie d'amour, dans une vie d'espérance, de foi, dans une vie de sainteté. Alors quand je dis ça, je ne sais pas comment vous y réagissez à l'intérieur. Qu'est-ce que vous vous dites? Alors peut-être vous êtes enthousiaste, vous en êtes déjà convaincu, vous êtes tout feu, toute flamme, ambitieux de grandir, et vous dites Amen, avec joie. Peut-être vous avez connu quelques victoires récentes, vous arrivez à maîtriser votre langue un peu plus, vous vous donnez un peu plus de mal pour aimer vos frères et sœurs, pour patienter avec leurs fautes, leurs faiblesses. Mais peut-être vous êtes un peu plus sceptique, parce que ça fait déjà quelques années que vous êtes au Seigneur et ces progrès semblent quelque peu absents ou élusifs. Vous voulez bien faire des progrès, mais vous avez l'impression que finalement votre vie ne change pas tant que ça. Vous avez peut-être l'impression que votre vie ne va jamais changer, beaucoup avant que Jésus ne revienne. Vous savez que vous êtes un pécheur misérable et vous vous dites « je vais rester comme ça » sans vraiment faire de très grands progrès. Alors on va voir dans cette lettre que l'apôtre Pierre ne va pas nous promettre la victoire totale, complète, avant que Jésus ne revienne. C'est vrai, notre vie sera marquée par cette lutte jusqu'à la fin de nos jours. C'est vrai. Mais Pierre est clair comme de l'eau de roche que quand même ce changement est possible. et est venu montrer pourquoi. Déjà au verset 2, dans l'introduction, il nous met sur la bonne piste, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Cette grâce qui donne la paix, cette grâce qui nous transforme vient au travers d'une juste connaissance de Dieu et de Jésus son Fils. Et nous allons voir que Pierre ne rechigne pas à nous exhorter à faire des efforts. Si ce changement est possible, même s'il est possible, il ne l'est qu'en vertu de la grâce. Dans les versets 3 à 4, Pierre nous montre comment cette connaissance de Jésus est le moteur ou le carburant du changement. Ces versets sont un peu denses, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez eu un peu de mal à les suivre quand je les lisais. Ils ne sont pas forcément faciles, même si le sens est clair. Le verset 3 commence en nous expliquant que la puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour avoir la vie éternelle, et pour grandir dans la piété. La piété, c'est vrai, c'est un mot un peu vieillot, mais qui nous parle de simplement la vie qui plaît à Dieu. Un homme pieux, ce n'est pas un bigot, mais un homme qui aime le Seigneur, qui vit pour lui, qui, pour lui plaire dans son attitude, dans ses mots, dans sa manière de vivre. Et Pierre nous annonce que la puissance divine, non pas notre propre puissance, sa puissance nous permet de faire des progrès. Faire des progrès dans cette vie, dans notre piété, dans cette vie qui plaît à Dieu. Alors, mais comment est-ce que sa puissance nous change? Verset 3. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Est-ce que vous voyez ça? Verset 3. Sans doute, Pierre parle de Jésus. Ou peut-être il parle de Dieu de manière trinitaire. Mais connaître celui qui nous a appelés, connaître Jésus. Alors, à un moment donné, vous ne connaissiez pas Jésus. Pas de manière personnelle, en tout cas. Mais si vous êtes croyant ce matin, à un moment donné, vous avez fait sa connaissance, vous avez rencontré Jésus. Et il est devenu votre Seigneur et votre Sauveur. La Bible nous montre que si nous le connaissons, ce n'est pas grâce à nous-mêmes, grâce à notre intellect, grâce à notre capacité de faire des bons choix dans la vie, mais grâce à sa puissance. Sa puissance nous a montré la gloire, la puissance de Jésus-Christ. Sa puissance nous a montré sa grandeur, sa sainteté, sa bonté, sa bienveillance, la toute suffisance de son sacrifice pour nous sauver, pour effacer nos fautes passées, présentes et futures. C'est sa puissance qui nous a appelés à lui, cet appel qui ne se refuse pas. C'était son œuvre. Le verset 1 nous montre que même notre foi était un cadeau que nous avons reçu. Alors comment est-ce que ça nous aide à changer, à faire des progrès? Il faut s'accrocher un peu. Verset 4. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et devenir participant de la nature divine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Celle-ci se réfère à la gloire et à la force de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est vraiment glorieux, parce qu'il est vraiment fort, puissant, ça veut dire que ses promesses, les promesses qu'il nous a données, sont fiables et donc précieuses. Alors, quelle promesse? C'est la promesse de revenir nous chercher et nous sauver. La promesse de nous déclarer juste et acceptable aux yeux de Dieu, une bonne fois pour toutes. C'est la promesse de l'adoption, d'avoir Dieu comme notre Père. Et ensuite, Pierre nous dit que c'est grâce à ces promesses que nous pouvons fuir la corruption qui existe dans ce monde. C'est grâce à ces promesses précieuses, fiables, que nous pouvons participer à la nature divine, c'est-à-dire nous pouvons grandir dans la sainteté pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Bref, le changement est possible, les progrès sont possibles parce que nous avons une vraie espérance. Nous avons une vraie espérance parce que dans sa grâce, Dieu nous a fait rencontrer son Fils. Son appel puissant nous a fait voir la gloire, la grandeur, la bienveillance de Jésus. Et nous savons que ces promesses ne sont pas juste des paroles en l'air, mais des vraies promesses, fiables. Nous pouvons faire des progrès parce que nous avons de l'espérance. Je reviens à une illustration que j'ai donnée plein de fois à l'église, c'est parce que je ne vais pas assez souvent au cinéma, mais il y a une scène dans un film que j'ai vu il y a 10 ans maintenant, un film qui s'appelle Gran Torino de Clint Eastwood, où un vétéran de la guerre de Corée qui vient de perdre sa femme dit à un prêtre catholique d'une manière méprisante, « Tout ce que vous faites, c'est tenir la main de femmes âgées pour leur promettre la vie éternelle. » Sous-entendu, c'est du pipeau. C'est mensonger. Karl Marx dirait que c'est l'opium du peuple, un placebo pour faire fuir notre peur naturelle de la mort. Et sans doute ce mépris, ce doute, ce déni est un peu dans l'air, à l'école, au lycée, au travail, peut-être même à la maison. C'est sûr dans les médias. Et si nous sommes honnêtes, nous en sommes peut-être un peu plus impactés que nous ne le pensons. On croit oui, mais on doute un peu. Mais Pierre revient à la charge. Dieu nous a fait rencontrer un Seigneur glorieux et puissant. Ses promesses ne sont pas du pipeau. Elles nous donnent une espérance certaine, fondée, fiable. Et ces promesses de la vie éternelle nous changent la vie. Nous sommes un peuple d'avenir. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance, qu'est-ce qu'il fait au juste? Il vit pour le moment présent. C'est tout ce qu'il a. Il vit pour combler ses désirs présents. Autant manger, boire, faire la fête, parce qu'après, demain, il n'y a rien. Notre civilisation occidentale n'a plus beaucoup d'espérance, plus de projets, sauf la prospérité, sauf le plaisir, le confort. Elle vit pour ses désirs présents. Elle est contrôlée par ces désirs-là. Elle court après des biens matériaux, des vacances luxueuses. Elle se réfugie dans le sexe, la pornographie, la drogue. Elle se distrait en clouant nos yeux aux écrans de tout genre. Mais nous sommes un peuple d'avenir, un peuple d'espérance. Nous avons fait la connaissance d'un Seigneur qui sauve, qui est glorieux, qui est puissant. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Jésus ? Compatissant, tendre, aimant, saint, juste et puissant, il a vaincu la mort le matin de Pâques. Qu'est-ce que son œuvre à la croix, à la résurrection, à l'ascension, à la Pentecôte et à l'avenir, à son retour, est puissante et efficace. Jésus peut nous ramener à la maison, chez notre bon Père Céleste. Il le fera, nous en sommes convaincus. Et c'est cette espérance-là qui nous tire vers l'avant, elle nous motive. Elle nous fait vivre pour celui qui a fait ça. Elle change nos désirs. Tout comme un fiancé s'affaire à préparer son mariage futur parce que sa fiancée lui a dit oui, lui a donné une promesse solennelle. Le croyant en vue de ce jour quand Jésus revient, quand ses promesses vont s'accomplir de manière plénière, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il s'affaire, il s'active, il fait des efforts. Cette promesse-là sous-tend son activité, sous-tend ses œuvres, ses efforts, motive ses efforts. Nous voilà donc à notre deuxième section pour ce matin, le changement, la transformation, ça se travaille. Et le verset 5 est limpide, l'exhortation est claire, et c'est le verbe principal de cette section, pour cette raison même. Faites tous vos efforts, afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Faites tous vos efforts. Ce n'est pas une question d'être passif. On ne peut pas simplement nous dire... Moi, je dois cesser de faire moi-même et laisser Dieu faire. C'était un peu à la mode de parler comme ça il y a quelques années. Non, l'apôtre Pierre est plus que clair. Faites tous vos efforts. C'est un appel à travailler sans relâche parce que le changement grâce à notre espérance. cette espérance qui est si sûre et certaine, ce changement est possible. Donc une attitude défaitiste qui ne croit pas au changement, qui dit, bon, les progrès, je ne les vois pas, donc j'y crois pas. Pour Pierre, ce n'est pas une attitude biblique. Alors ça commence par la foi. Pierre parle à ceux qui ont la foi. Et le verset 1 nous dit que cette foi est un cadeau, une grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes forts que nous avons la foi. C'est un cadeau, c'est la grâce. Tout est par grâce. C'est cette confiance en Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Nous étions hostiles à Dieu, éloignés de lui. Nous ne le cherchions même pas, mais il est venu nous chercher. Il nous a parlé par sa parole. Il a suscité la foi en nous. Il nous l'a donné, c'est un cadeau. Et il nous demande d'ajouter à cette foi ses qualités. Il y a une liste de qualités qui nous conduit vers l'affection fraternelle, vers l'amour. Je ne pense pas qu'il faille chercher une logique exacte entre chaque caractéristique. Il ne s'agit pas de focaliser d'abord pour un moment sur la maîtrise de soi avant de passer à la persévérance. Non, tout se travaille en même temps. Tout est construit sur cette foi, cette confiance que le Saint-Esprit nous a donnée. Cette confiance toute simple en Jésus le Sauveur, celui qui va revenir nous chercher, nous ramener dans la maison de son Père. Alors la qualité morale ici renvoie peut-être à la bonté, en tout cas le caractère excellent de Dieu, sa bonté, sa bienveillance. Et c'est vrai, nous sommes déjà au bénéfice de la grâce, de cette bonté extraordinaire de Dieu. Nous y avons goûté. Si nous sommes enracinés dans ce que Dieu a fait, dans ce qu'il a été envers nous, ce qu'il est envers nous, nous allons ajouter cette même bonté à notre foi. Une foi collée à Jésus s'abreuvera consciemment de cette bonté divine et travaillera pour l'ajouter à sa foi, à sa manière de vivre. Est-ce que nous sommes connus au travail, en famille, dans le voisinage, pour notre bienveillance? Qu'est-ce que vous pourriez faire cette semaine pour être plus bienveillant envers vos collègues ou peut-être envers un membre de la famille qui est un peu difficile? Pierre nous invite à ajouter cette bienveillance à notre foi. Ensuite, la connaissance, c'est sans doute la connaissance personnelle de Christ, de son Père. C'est grandir dans la connaissance de l'Évangile, des voies de Dieu, de ses promesses. Et c'est vrai, on n'a jamais fini d'explorer, de creuser les profondeurs de sa grâce envers nous. Oui, on peut lire la Bible de manière personnelle et c'est une bonne chose à faire. Je vous encourage à faire ça, à méditer la parole quotidiennement. Et parfois, c'est bien de le faire à deux ou en famille, aussi avec les enfants. Mais peut-être la première manière de le faire, c'est d'être assidu à l'église. Venez le dimanche matin dans l'expectative. Dieu va nous parler par sa parole. Pourquoi ne pas prier la veille, le samedi soir? Seigneur, parle-moi demain. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de grandir. Et pour grandir, j'ai besoin de cette connaissance personnelle de toi, de la grandeur de ta grâce. Ensuite, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous fait souvent défaut, n'est-ce pas? Me fait souvent défaut. On discerne qu'elle nous manque quand on s'aperçoit que nous blessons ceux qui nous entourent par nos paroles, par notre égoïsme, ou quand nous consommons sans modération des choses qui, en elles-mêmes, sont de bonnes choses. La nourriture, les loisirs, les médias, l'alcool. Ou c'est parfois quand on n'arrive pas à gérer notre budget, notre argent, pour être en mesure d'être généreux envers les autres. Ou même juste subvenir aux besoins de notre famille. Oui, parfois il y a des exceptions, parfois il y a des circonstances difficiles. C'est peut-être quand on n'arrive pas à trouver le temps pour lire la parole, pour prier, pour venir à l'église. C'est une question de savoir qui est-ce qui nous contrôle, quel désir nous contrôle. La connaissance de Christ, l'espérance qui en découle, doit captiver nos désirs pour que nous vivions pour Christ. Nous pouvons nous poser la question ce matin, quels sont les domaines de notre vie où on est contrôlé par des désirs malsains. Et ça se voit dans le fruit d'un manque de maîtrise de soi. Et on a besoin de revenir au Seigneur, de revenir à ce qu'il a fait pour nous, à ses promesses, et de laisser ses, ces bonnes choses. Le Seigneur lui-même contrôle nos désirs. On a besoin de son aide. Ensuite, Pierre évoque la persévérance, le fait de ne pas abandonner quand c'est dur. Et la persévérance s'accroche tant bien que mal à Christ, dans l'assurance que même dans notre faiblesse, même quand on est bien faible, lui ne va pas nous lâcher, jamais. Alors, il y a des saisons de la vie qui sont plus ou moins difficiles. Vous passez peut-être par certaines épreuves, des épreuves au travail, peut-être des épreuves de santé ou des épreuves de famille. Vous êtes peut-être dans une vallée de découragement en ce moment. C'est un moment de doute. N'oublions pas ses promesses. N'oublions pas celui qui nous a fait ses promesses. Jésus est puissant et bon. Il est capable de nous ramener dans la maison de son bon Père céleste. Consciemment, même dans la faiblesse, demandons-lui de nous donner de persévérer dans cette foi jusqu'à la fin. Demandons-lui de nous aider à persévérer tant bien que mal, dans la faiblesse, dans les moyens de grâce qu'il nous donne, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire la prière, la lecture de la parole. Et c'est après coup qu'on va constater que c'est lui qui nous a portés. Il s'est servi de ses moyens de grâce, mais c'est lui qui l'a fait. La piété évoque cette vie qui plaît à Dieu, qui cherche sa volonté. Le royaume de Dieu, d'abord. C'est tentant dans notre culture de focaliser sur les besoins du présent, le confort, sur la prochaine étape de notre carrière, ou sur les bonnes choses, les bonnes conditions qu'on veut offrir à nos familles, à nos enfants. Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste nous sera donné. Pierre nous rappelle que ça se travaille, oui, c'est l'Esprit qui nous change par sa parole, nous le voyons ailleurs dans la Bible, on voit même dans la première lettre de Pierre. Mais ça n'empêche pas que ça se travaille, faites tous vos efforts. Pierre nous invite à faire des choix conscients, nos efforts font partie de la manière de travailler de Dieu, même si de manière absolue, tout nous est donné par la grâce. Ça nous conduit à l'amour fraternel, et l'amour tout court, tellement d'applications possibles. Mais j'aimerais vous inviter à jeter un regard autour de vous ce matin. Allez-y, faites ça. Voici vos frères, vos sœurs. Les aimer, les servir, les encourager, les exhorter à progresser. Les porter quand ils ne vont pas bien. Les aider quand les coups durs de la vie arrivent. Intercéder pour eux dans la prière. Leur offrir de l'hospitalité. Ça se travaille. Il faut être intentionnel. Il faut parfois sortir de notre zone de confort. Faire des progrès. L'Église n'est pas juste un moment pour profiter des amitiés naturelles qu'on peut avoir avec ceux qui nous ressemblent. L'Église n'est pas un club social, club d'amitié. Pierre nous montre que le but de Dieu est bien plus noble que ça. Nous sommes une communauté d'espérance. Nous avons reçu des promesses précieuses. Nous sommes à lui, à notre Seigneur, à notre Sauveur. Et puisque nous sommes à lui, nous sommes frères et sœurs. Du même grand frère. Nous appartenons les uns aux autres. Il ajoute au verset 9, « Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. » Le moteur du changement, c'est la connaissance de Jésus, dans toute sa gloire. C'est la connaissance de ce qu'il a fait pour nous, et notamment ce qu'il a fait pour nous à la croix, ce qu'il fera pour nous à son retour. Grâce à ce qu'il a fait à la croix. Mais notre paresse, notre amertume, notre convoitise, nos paroles blessantes, notre manque de désir de connaître mieux notre Dieu, notre égoïsme, notre manque d'ambition pour le royaume de Dieu, tout ça trouve sa racine en notre oubli de la bonté bienveillante de Dieu. La foi authentique, nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, la foi authentique, nous dit Jacques dans sa lettre, est une foi qui travaille, qui sert le Seigneur, qui se donne du mal pour son prochain. Et cette foi, cette confiance en Jésus trouve toute sa force en sa connaissance, en la connaissance de Jésus, dans la connaissance de ses promesses fiables. Il est le Seigneur qui nous a sauvés, en qui, par qui, toutes nos fautes, passées, présentes et futures, ont été lavées, effacées. Et éloigné de nous de manière permanente. Et grâce à ce pardon permanent, Jésus peut nous promettre de nous ramener dans la maison de son Père. Le verset 8 que j'avais sauté, que j'ai sauté, formule ce principe de manière positive. Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce n'est pas une question d'avoir atteint la perfection. Nous ne serons pas totalement transformés avant que Jésus ne revienne. Vous savez, peut-être dans cette vie, ça sera une simple amorce en quelque sorte, amorce de ses progrès. Peut-être par rapport à ce que nous serons quand Jésus revient, nos progrès seront relativement minimes. Mais quand même, nous devons avoir ces qualités, ne serait-ce qu'en germe. Et nous devons les voir en train de grandir, de germer, de porter du fruit, de plus en plus. Je suis conscient que le temps passe. J'aimerais juste terminer avec ce dernier point. Ce changement, ces progrès ne sont pas facultatifs. Ils ne sont pas juste pour les chrétiens super motivés. Verset 10, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur vous sera largement accordée. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce qu'il faut faire des efforts pour s'assurer une place avec Christ dans le royaume? Non, c'est pas ça. C'est le contraire. Il faut que ça soit le contraire, sinon notre espérance est caduque. Si ça dépendait de nos efforts, ben nous savons que nous ne pourrions jamais avoir la certitude d'être à la hauteur. Le salut est par grâce. Il est un cadeau. C'est pour ça que Pierre parle ici d'appel et de choix ou d'élection. C'est Dieu qui nous a choisis. Nous ne l'avions pas choisi. Nous ne l'aurions jamais choisi. Nous lui étions hostiles. Quelle que soit notre expérience de notre conversion, d'une manière ultime, c'est lui qui est venu nous chercher. C'est son appel efficace qui nous a arrachés de notre hostilité. Et ça nous laisse bouche bée. Toute la gloire lui revient. Mais nos efforts d'être fidèles au Seigneur, de vivre fidèlement semaine après semaine, sont pourtant vitaux, très importants. Il est question de notre persévérance. Appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Nos efforts et les progrès que nous faisons, même les petits progrès, affermissent cet appel, ce choix, dans le sens où ils les confirment. Ils démontrent leur authenticité. Si l'amour fraternel anime nos cœurs, si la connaissance de Jésus nous est de plus en plus chère, si nous cherchons sa volonté dans nos choix quotidiens, si nous maîtrisons de plus en plus nos langues, si ceux qui nous entourent goûtent un peu par notre biais à la bonté de Christ, tout ça nous montre que nous sommes bel et bien au Seigneur et que, comme Pierre a dit dans sa première lettre, que sa parole nous a convertis. Cette obéissance pratique confirme l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et il nous aide à progresser, à continuer, même dans les épreuves, même face à la tentation de démissionner, d'abandonner. Pierre, tout pasteur qu'il est, veut que nous entrions dans ce royaume éternel du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il écrit cette lettre. Il sait que celui qui oublie cette bonté, qui oublie tout ce qu'on a reçu en Christ, celui qui ne s'attache pas aux promesses, Jésus-Christ, celui qui va revenir nous chercher, va se laisser aller sur le plan moral. Tôt ou tard, c'est sûr. Il n'ajoutera pas ses qualités à sa foi. Et tôt ou tard, dans les épreuves de la vie, dans les tentations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un peu d'eau dans son vin. Il va finir par lâcher le Seigneur. Il sera comme ses faux frères, comme on va voir au chapitre 2. Est-ce que nous sommes prêts à entendre cette exhortation ce matin, cette exhortation pastorale qui vient du cœur de l'apôtre Pierre, s'il nous exhorte à faire des progrès, à nous enraciner dans la connaissance de Jésus pour faire ces progrès, c'est parce qu'il nous aime. Il veut que nous tenions fermes jusqu'à la fin, que nous soyons fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. C'est ceux qui persévèrent qui entrent dans le royaume de Dieu. Et comme ce passage nous le montre, si nous persévérons, c'est grâce à lui, c'est son appel, c'est son choix, c'est son œuvre en nous. Mais dans sa manière de faire, par les promesses, par cette connaissance de son Fils, il nous pousse à faire des progrès, à grandir, à changer. Et ce changement
nous aide à persévérer jusqu'à la fin.
Pourquoi ne pas méditer cette semaine ce passage et vous poser la question:
est-ce que je suis en train de faire des efforts? Ou est-ce que j'ai déjà abandonné? Est-ce que je me suis déjà satisfait de ma situation actuelle?
Si nous sommes découragés, si nous nous savons désobéissants, on l'est peut-être tous, je pense, à un certain point, certaine échelle. Pierre nous invite à revenir à Jésus, celui qui nous a sauvés, qui nous a lavés, à celui qui est le seul qui peut nous ramener à la maison chez son Père. On peut méditer sur ses promesses, les promesses d'un Sauveur, d'un Seigneur puissant qui est capable de nous sauver, qui va le faire. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, nous sommes tous conscients des progrès que nous avons à faire. Le péché nous enveloppe si facilement. On vit dans une culture qui vit que pour le présent. On est plus impacté par cette culture avec ses désirs qu'on ne le pense. On cherche trop souvent notre confort. On cherche la sécurité financière. On cherche notre épanouissement dans les loisirs. Dans des choses qui viennent de toi d'une manière ultime, de bonnes choses. Mais donne-nous de fixer nos yeux sur ton Fils cette semaine, sur la bonté de Jésus, sur ce qu'il a fait pour nous à la croix. Donne-nous de nous réjouir dans le salut qu'il nous a donné, dans le pardon qu'il nous a offert. Merci notre bon Père Céleste de ce que ce pardon est permanent. Nous sommes revêtus de sa justice. Tous nos péchés, passés, présents et futurs, sont effacés, expiés. Ta justice est satisfaite. Nous sommes à lui pour la vie, pour la mort, pour l'éternité. Merci pour cette promesse que tu nous donnes. Merci de ce qu'elle n'est pas du pipeau, mais fondée, réelle, sûre et certaine. Donne-nous de regarder en avant vers ce jour quand Jésus reviendra nous chercher. Et notre Père, à la lumière de tout ça, donne-nous, aide-nous par ton esprit à faire des efforts. Nous sommes souvent paresseux. Donne-nous de changer, de nous repentir. Donne-nous d'ajouter à notre foi ta bonté, ta bienveillance. Tu vois peut-être les endroits de notre vie où on manque de maîtrise de soi. Donne-nous de voir les mensonges que nous avons crus. Donne-nous de voir les désirs qui nous contrôlent. Donne-nous de revenir à Jésus. Nous abreuver de sa bonté. Nous avons besoin de ton aide. Nous ne pouvons pas le faire sans ton aide. Père, fais cette œuvre dans nos vies. Donne-nous de faire des efforts et de persévérer jusqu'à la fin. Nous t'en prions. Au nom de ton Fils. Amen.